Salut à toi, oh mon frère. Salut à toi, peuple khmer. Salut à toi, l'Algérien. Salut à toi.
Salut à vous, les auditeurs de Radio Galère. C'est les infos hebdomadaires présentées par Eric.
Et Jacques.
Oui, merci. Merci de me.
Alias Dr. Muller.
De me prénommer. Donc, aujourd'hui, donc, comme tous les samedis, ou presque, donc, on est là pour vous donner quelques informations de ce qui s'est passé dans la semaine, de ce qui s'est passé de pas terrible, c'est surtout ça, et de ce qui s'est passé de bien, c'est beaucoup moins ça.
Ben, surtout des tristes nouvelles, puisqu'on a appris le décès de Issa Kone, qui était un des gens qui avait participé à la création des Radio Galère autour des années 80-90, et qui avait aussi contribué à la création des Radio Tabalé au Mali.
Ouais,
qui est décédé hier, donc toutes nos condoléances à sa famille, à ses proches. Et évidemment, c'est un peu la série noire après Théo, Issa, Étienne, Théo, Issa. J'avoue que c'est un peu... Voilà.
Bah, c'est malheureusement un hiver mortel, c'est un peu dur.
Alors, on dédie bien sûr l'émission à Issa, comme on a dédié la semaine dernière l'émission à Théo. Mm. Voilà. Donc, on va passer à trois informations à l'éditorial du jour.
C'est toi qui
dois
faire cet éditorial. C'est toi qui t'y colle aujourd'hui.
Oui, écoutez, on va parler. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, l'actualité n'est pas réjouissante. Hein. Donc, si c'est inconnu, on va se contenter de faire de la presse people, sinon, vu que c'est tellement triste.
C'est exagère.
Quand la démocratie devient une menace pour le capitalisme.
Ah, je l'ai vu, oui, ça.
Le capitalisme est bien plus important que la démocratie. Je suis moi-même pas un fervent adepte de la démocratie. Et ces propos ont été tenus par Stéphane Moore, conseiller économique de Donald Trump lors de son premier mandat. Pour l'historien canadien Quinn Slobodian, spécialiste du néolibéralisme et auteur du « Capitalisme de l'apocalypse ou le rêve d'un monde sans démocratie », ces propos confirment qu'actuellement, une nouvelle vague ultralibérale est sur le point de submerger les États-Unis, mais aussi le reste du monde par extension, avec le retour au pouvoir de Trump 2.
En gros, c'est liberté totale pour le capitalisme et aucune liberté pour le reste.
Voilà, si on veut. Voilà. Le mouvement libéral et libertarien, incarné par Donald Trump et son entourage, Elon Musk, s'inspire des économistes néolibéraux comme Milton Friedman, adorateur des modèles productivistes de Hong Kong et des arnaco-capitalistes. Murray Rothbard, qui considère les impôts comme du vol et estime que les constitutions des États doivent être remplacées par des contrats privés.
Ah ben oui, hein, la chasse est ouverte.
Quinn Slobodian, professeur d'histoire globale à l'Université de Boston, détaille dans son ouvrage à quel point ce modèle essaime dans le monde entier sous forme de zone où disparaît le droit fiscal et social de Dubaï aux paradis fiscaux du Liechtenstein en passant par de nombreuses zones économiques spéciales chinoises. Le nombre de ces zones a été multiplié par 30 en 30 ans pour atteindre 5400 territoires taillés sur mesure pour un capitalisme sans entrave de l'État et sans réelle démocratie. Aujourd'hui, avec Donald Trump et Elon Musk, c'est un an du démantèlement de l'État viennent de capturer la première économie mondiale. Leur projet est avant tout une dérégulation totale de l'économie et l'élimination de toute forme d'aide sociale. Ces néolibéraux, comme les libertariens, privilégient la liberté économique par rapport à toutes les autres libertés et leur priorité est donc de protéger le capitalisme. Or, la démocratie représente pour eux une menace car elle peut déstabiliser le capitalisme. Ils détestent ainsi les évolutions du XXe siècle qui a apporté l'autodétermination nationale, entraîné la décolonisation et enfin la fin des empires, ainsi que la démocratie de masse. Ces changements peuvent, selon eux, mettre en péril un monde fondé sur la propriété privée et les investissements transnationaux. Pourquoi ? Car ils craignent que le peuple utilise son vote pour exproprier les capitalistes et exige toujours plus d'État sous la forme de droits et de prestations sociales.
Ah, il faut dissoudre le peuple, voyons.
Voilà. Oui, c'est Bertolt Brecht, ça. Dissoudre le peuple et en aller en notre.
C'est ça.
La démocratie, pour eux, tend toujours vers le socialisme, répond Quinn Slobodian dans une interview publiée dans Libération. Des gens comme Elon Musk ou Peter Thiel préfèrent des endroits qui sont isolés des pressions de la démocratie de masse et qui sont capables d'agir comme les entreprises car ils sont plus agiles et efficaces pour s'adapter aux besoins du monde. Les néolibéraux estiment que ces dispositifs sont aujourd'hui nécessaires pour échapper à ce qu'ils considèrent comme une nouvelle version de la menace communiste, le communisme vert.
Ah !
Des activistes climatiques ou la pression des militants qui exigent l'égalité de traitement pour les minorités.
Ah, c'est dur ça.
Ils jugent également que l'Union européenne est une sorte de Léviathan socialiste.
Léviathan, oui.
Et qu'elle doit être radicalement réformée ou détruite. Ils ont deux stratégies. D'un côté, créer des institutions qui limitent ce que les États-nations peuvent faire de manière autonome à travers le droit supranational. Et de l'autre, réduire les capacités d'action des États en scindant leur territoire. Ceci est réalisé soit en formant des enclaves à l'intérieur d'un pays, avec des règles très disparates, comme les zones économiques spéciales du Honduras ou en Chine, c'est-à-dire créer de nouvelles zones extérieures avec leurs propres règles, en créant une nouvelle société qui serait régie par des règles copiées sur le fonctionnement de l'entreprise privée. Les politiques des quatre prochaines années vont conduire à une grande décentralisation du pouvoir aux États-Unis, prédit Quinn Strobland. Il est probable qu'ils vont retirer les financements des agences fédérales pour les transférer au niveau des États fédérés, ce qui va créer des différences importantes de législation du monde entier, du mode de vie des États. Seuls les plus riches pourront se permettre de déménager. Dans plusieurs secteurs, on va toucher par le désengagement de l'État, comme par exemple l'éducation.
Ah oui, c'est ça. C'est vrai que Trump veut supprimer le ministère de l'Éducation.
Oui, pour l'instant, il a mis la championne de catch, ministre de l'Éducation nationale.
C'est pas mal, oui.
En Floride et en Ohio...
C'est le ministre de combat, quoi.
Ouais, en Floride et en Ohio, les habitants peuvent déjà acheter des bonnes d'éducation qui remplacent les impôts et permettent à chacun de choisir le type d'éducation qu'ils veulent en fonction de leurs revenus. Le nouveau gouvernement parle aussi de supprimer le ministère fédéral de l'Éducation, ce qui mettra fin au financement des écoles les plus pauvres, des écoles primaires ou de l'éducation spécialisée destinée aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Les néolibéraux détestent la notion d'égalité et les projets d'égalité de chance. Ils préfèrent laisser le marché diagnostiquer les capacités de chaque individu à des fins économiques. En gros, une éducation privée sur mesure.
Bien sûr.
À la vente. Toujours selon Quinn Strobland, Elon Musk utilise Donald Trump comme une sorte de bélier pour accéder aux marchés étrangers. Donald Trump pourrait ainsi menacer d'imposer d'importantes barrières douanières à l'Union européenne, sauf si elle allège la réglementation imposée à ses amis de la Silicon Valley concernant les réseaux sociaux. Donald Trump va aussi chercher à imposer que les pays de l'Union européenne achètent des armes américaines.
Bref, le meilleur des mondes, quoi.
Elon Musk est un homme qui y donne l'illusion d'être souvent un anti-autoritaire, mais en réalité, il récupère les innovations des autres et soutient les partis autoritaires.
Marc, c'est vrai qu'il a mal au bras. Hein. T'as vu, il a tendance à tendre le bras.
Oui,
je sais pas
surtout
trop.
Chez l'AFD.
Ah ouais.
Les gestes effectués par Donald Trump, Elon Musk et ses soutiens depuis le 20 janvier ne sont rien d'autre que des attaques contre les bases de ce qu'a constitué la démocratie américaine. C'est d'ailleurs ce que nous parlons Louis Morel dans sa chronique de cette semaine. Alors, je rappelle quand même Quinn Strobland, il a écrit un livre qui s'appelle « Le capitalisme de l'apocalypse ou le rêve d'un monde sans démocratie », c'est aux éditions du Seuil, dans son ouvrage à lire, et si vous voulez vous intéresser davantage à l'ensauvagement du capitalisme.
Voilà, si vous voulez bien déprimer, c'est pas mal.
Vous pouvez procurer le livre là-dessus. Bon, ben,
La France aussi, oui, en France, les droites veulent imiter la croisade de Trump en ce qui concerne les trans. Après des années de progrès jusqu'à la possibilité d'indiquer un genre X sur les passeports, Donald Trump a opéré un brutal retour en arrière pour les personnes trans-américaines. À partir d'aujourd'hui, la politique officielle du gouvernement des États-Unis sera qu'il n'y a que deux sexes, masculin et féminin, a-t-il affirmé dans son discours d'investiture, signant dans la foulée plusieurs décrets qui précarisent et mettent en danger des millions de personnes. Alors cette vague transphobe peut-elle atteindre un niveau similaire en France? Oui, si l'on en croit le sondage CSA, commandé après la sortie de Trump par les médias de Vincent Bolloré, CNews, JDD, Europe 1, on y découvre que 76% des Français adhèrent à l'affirmation qu'il n'y a que deux sexes. Derrière cette bataille, il y a l'idée répandue que les personnes trans, mais aussi leur soutien dans la communauté lesbienne, gay, bi, et certaines féministes, auraient un projet politique caché, nier la différence biologique des sexes. Ces croyances sur le nombre de sexes oublient par ailleurs que 1,7% des enfants naissent intersexes selon les Nations Unies, c'est-à-dire avec des caractéristiques sexuelles, chromosomes, hormones, organes génitaux, qui ne correspondent pas aux définitions type des corps féminins ou masculins. Le comble pour un courant conservateur obsédé par les parties génitales des citoyens. Lors du précédent mandat de Trump, interdire l'utilisation des toilettes de leur choix aux étudiants trans était un cheval de bataille de son administration. Donald Trump, Vladimir Poutine, Javier Milei, Viktor Orban, tous utilisent la transphobie pour fédérer leur électorat. En juin 2024, en pleine campagne éclair des législatives après sa dissolution, Emmanuel Macron a qualifié de « totalement ubuesque » une promesse du nouveau Front populaire consistant à autoriser le changement de sexe en mairie. La mesure est pourtant en vigueur dans de nombreux pays comme l'Espagne, la Belgique ou l'Allemagne. En France, la procédure de modification du sexe à l'état civil oblige encore à passer devant le juge pour démontrer par une réunion suffisante de faits que la mention de votre sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel vous vous présentez et dans lequel vous êtes connu. Le mot de Macron a d'autant plus indigné qu'il avait promis en 2022 dans le magazine Têtu de supprimer les procédures administratives si elles sont inutiles, ouvrant une voie à l'amélioration de la loi. Donc justice du 21e siècle, adoptée en 2016. Un phénomène pourtant extrêmement encadré et ultra-minoritaire qui ne concernait que 294 mineurs selon les chiffres de la Caisse nationale d'assurance maladie en 2020, soit 0,00021% des 14 millions de jeunes recensés en France la même année, comme le calculait le journal Libération. Ça n'a pas empêché Éric Zemmour d'en faire un sujet de campagne, ni l'hebdomadaire Valeur Actuelle de titrer sur le délire transgenre. La transphobie s'exprime surtout dans les théories complotistes sur la transidentité de personnalité, comme celle visant Brigitte Macron, qui a obtenu gain de cause au tribunal. C'était les mêmes rumeurs sur Michelle Obama. Et c'est plus c'est bête, plus ça marche. De toute façon, tout ce qui se passe aux États-Unis finit par arriver en France et c'est bien dommage.
Calomnier, il en resterait quelque chose. Je crois que c'était de Talleyrand.
Talleyrand, qui était le ministre de l'Intérieur de Napoléon.
Oui, assez grand opportuniste aussi.
Bien sûr.
Bon, mais on va parler d'une grève qu'on n'entend pas trop souvent, d'ailleurs, parce qu'elle concerne en fait trois routiers.
Les ?
Une grève de trois routiers.
De trois routiers ? Ils sont trois seulement ?
Oui, je dis, ben oui, oui. Mais qui sont victimes de représailles sur les aires d'autoroute après avoir dénoncé leurs conditions de travail.
Ah, d'accord. Voilà.
Alors, les conducteurs originaires du Zimbabwe, avec des remorques immatriculés en Lituanie, travaillent pour le sous-traitant slovaque Global Transport du groupe allemand Hegelmann. Ça, c'est la mondialisation. Mm-hmm. Ils se sont mis en grève pour obtenir le salaire qui leur a été promis et le respect des règles européennes en matière de pause obligatoire. Et dans le week-end du 25 et 26 janvier, ils ont stoppé leur camion, revendiquant une amélioration de leurs conditions de travail et une assurance en cas de problème de santé.
Et alors ?
Alors, venus en Europe avec la promesse d'un salaire de 1 500 euros mensuels, la plupart ne reçoivent que 600 et 700 euros depuis octobre.
Ah, c'est pas mal, oui.
Voilà, ça c'est vraiment vrai, mais c'est croquerie. Alertés, les stations de transport de la CGT et de la CFDT se sont vite organisées pour venir en aide à ces travailleurs isolés. J'ai appelé les forces de l'ordre dès que j'ai eu l'information et ce vendredi soir, nous allons interpeller le préfet et le ministère des Transports, détaille le responsable de la CGT des Transports. Ce ne sont pas des situations acceptables en 2025, c'est de la traite d'êtres humains. Je ne suis pas étonné de cette situation, réenchérit le responsable de la CFDT. Le tout dans un contexte où tous les conducteurs européens ou non sont régulièrement agressés, volés sur les parkings. Nous nous occupons du droit conducteur en France, nous allons remplacer le coup batterie de celui qui n'en a plus et les ravitailler en nourriture.
D'accord.
Le libéralisme à outrance, comme signale toujours le responsable de la CFDT, c'est comme une petite quinzaine de chauffeurs en Europe, dont trois en France, ont été contactés par une agence d'intérim slovaque qui leur promettait 1 500 euros par mois, soit un minimum négocié au niveau européen. Ils avaient un emploi net, mais un salaire de 250 euros chez eux. Voilà. Sauf que depuis septembre dernier, ils ne touchent que 600 euros par mois. Ils se sont donc appelés et ils ont décidé de mettre en grève en attendant d'être payés. Alors, il est fréquent que les transports de marchandises internationaux soient effectués par des camions immatriculés en Europe de l'Est. Conduits par des travailleurs immigrés extra-européens, notamment d'Asie centrale, d'Inde, d'Afrique.
Si on les paye moins, oui.
Dans des conditions de travail déplorables. Hegelmann est l'un des spécialistes du dumping social. Ils ont des filiales dans tous les pays et ils font travailler des non-européens dans des conditions d'esclavagisme. L'entreprise a été dénoncée au parquet allemand en 2015 pour concurrence déloyale. 7 à 8 ans plus tard, nous avons appris que le dossier avait été classé sans suite. qui rappelle un syndicaliste belge.
Ouais.
Alors, pour ce qui concerne... Les grévistes sont sujets à des représailles, à des attaques.
Ah, d'accord, voilà, c'est pas mal. Ouais.
Voilà. Donc, par exemple, un a eu en réponse leur entreprise a désactivé leur GPS et bloqué les moyens de paiement, les condamnant à rester bloqués sur les airs. mais c'est et vrai à que, vivre dans leur cabine sans leur, voir leurs enfants.
Mais c'est vrai qu'on est au 21e siècle, mais on se croirait presque au 19e siècle.
Oui, voilà, même, je dirais même 18e siècle, au moment d'esclavage.
Ouais.
Un copatron du Zimbabwe a dû solliciter l'aide de la police allemande lorsqu'il a vu des inconnus s'en prendre à sa marchandise. Peu après avoir quitté le commissariat, les ravisseurs ont refait surface et ont pris les commandes du véhicule, l'emportant avec eux. Ils lui ont asséné qu'ils allaient le renvoyer au Zimbabwe et qu'ils avaient la police tchèque et slovaque dans la main. Il a réussi à prévenir de nouveau la police allemande et le camion a été arrêté à 60 km plus loin. Ce dernier est désormais en sécurité dans un hôtel. Un autre a eu une expérience moins concluante avec la police française. Après avoir prévenu les autorités que des hommes voulaient voler son camion, il se rend dans une gendarmerie, mais est suivi par un van qui a fui quand les hommes sont à son bord ont compris que les policiers les approchaient. De retour au parking, il a eu la mauvaise surprise de voir réapparaître le van dans la nuit. Terrorisé et calfeuté à l'intérieur de son camion, il n'a pu rien faire. Pendant qu'il tirait de force avec une corde pour enlever la remorque, j'ai appelé 4 fois la police française et 4 fois ils m'ont répondu qu'ils arrivaient, ils ne sont jamais venus. Selon lui, les tractations sont en cours à Bruxelles avec les commissaires au transport et la fédération est entrée en contact avec le groupe Hegelmann. C'est de l'esclavage moderne. On a épuisé les chauffeurs roumains et bulgares, alors on a trouvé moins cher en Afrique. Voilà la situation des chauffeurs routiers qu'il ne faut pas négliger manières dont ils sont exploités.
Bah, tu sais, bon, ça risque de se développer de plus en plus si on arrive à l'ultra-libéralisme débridé.
Ah oui, ça...
Et en parlant de libéralisme, on va parler surtout de mode. Avec l'ancienne chaîne qui est l'ancienne de mode préférée des Français en 2024. Alors, c'était au mois de décembre dernier, le 20 décembre, et on apprenait que Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur, reconverti dans les transports, à la tête du grand port maritime de Marseille et des sociétés autoroutes et tunnels du Mont-Blanc et de Fréjus, avait été recruté par chaîne pour rejoindre un comité régional censé conseiller le géant chinois de l'ultra-fast fashion sur sa responsabilité environnementale et sociale. Alors, sa coquinée à chaîne, c'est s'asseoir sur un faisceau notoire de pratiques contestables. Ses vêtements à très bas prix et à l'offre sans cesse renouvelée impliquent des conditions de travail qui valent à l'enseigne d'être accusées par plusieurs ONG de non-respect des droits de l'homme. Des parlementaires américains, notamment, pointent l'exploitation des Ouïghours, minorité musulmane habitant surtout dans la région chinoise du Xinjiang. Leur fabrication, par ailleurs, convoque des matériaux et des substances possiblement dangereuses pour la santé. Leur exportation à travers la planète entraîne un impact environnemental catastrophique. L'application de vente présenterait un risque pour la protection des données personnelles des utilisateurs. Autant pactiser avec le diable en clair. Et tout le monde de s'accorder que seul le cynisme doublé de l'appât d'un gros gain pouvait expliquer le ralliement de Castaner, auquel il faut ajouter ce moins commenté de l'avocate Nicole Getch, ancienne secrétaire d'État chargée des victimes de Jacques Chirac, et de l'ancien président de la Fédération française de l'assurance, Bernard Spitz, fondateur du cercle de réflexion Les Grac. L'ex-ministre de l'Intérieur a donc très logiquement été cloué au pilori, notamment par la Fédération française du prêt-à-porter féminin, qui alertait que l'engagement de ces figures publiques auprès d'une entreprise dont les impacts environnementaux et sociaux sont unanimement dénoncés constitue un signal alarmant à l'heure où des mesures concrètes sont attendues pour contrer les dérives de l'ultra-fast fashion. Or, il apparaît que ce grief pourrait être adressé à l'ensemble de l'Hexagone, car en 2024, chaîne est devenue l'enseigne de mode où les Français ont le plus dépensé en 2024. Détrônant du même coup le site de revente lituanien Vinted, qui dominait depuis 2020 après une étude publiée par l'application de Shopping Joco et basée sur l'analyse des données bancaires anonymisées de 700 000 utilisateurs. En valeur, les ventes de chaînes ont bondi de plus de 58% entre 2023 et 2024. Le reste du classement entérine la domination de la fast ou de l'ultra-fast fashion. Derrière chaînes et Vinted, on trouve Kiabi, Intersport et Zara, puis VP, Zalando, Primark, H&M et Gémeaux. Alors certes, on peut convoquer le contexte inflationniste, mais il a aussi bon dos, très pratique pour tenter de masquer un énième « fais ce que je dis, pas ce que je fais ». L'éco-anxiété galope, mon bilan carbone est devenu une expression usuelle, prendre l'avion fait culpabiliser, mais à côté de ça, alors même que nos armoires saturent et que les bennes collectent débordent et que nos rebuts transforment l'Afrique en dépotoir, on persiste à encourager les pires versions de l'industrie de la mode, classées parmi les plus polluantes qu'il soit. Alors je pense que toi aussi tu as t'habillé chez Chêne, non ?
Oui, non. Moi, je suis habillé comme un sortir, hein, tenue kaki, une forme noire avec SS.
Ah bon?
Non, mais
attends, tu sais que comment c'était les couturiers italiens qui avaient dessiné les coutures SS?
Non, alors oui, c'est Hugo Boss.
C'est ça. Voilà. Qui avait dessiné l'uniforme des SS.
Oui, voilà.
Donc, finalement, tu es en phase avec ton temps, c'est bien.
Oui, je mets du parfum Hugo Boss, d'ailleurs, pour me rappeler le bon moment. Non, je trêve de plaisanterie. C'est vrai que beaucoup de gens lèvent le bras en ce moment.
C'est vrai. Et peut-être qu'à la fin, ils vont finir par avoir mal au bras.
Mais en tout cas, dans le Nord, en France, ils ont pas mal au bras parce que, justement, dans le Nord, il y a une nébuleuse identitaire prête à passer aux actes.
Bon.
Pour parler de l'extrême droite, bien sûr. Hein, c'est pour ça que je te faisais un peu cette allusion aux uniformes.
Bien sûr.
Des gens qui aiment plutôt le kaki, plutôt. Si ce n'est pas les chemises brunes ou noires, mais enfin, c'est plutôt le kaki paramilitaire. Donc, en fait, voilà, l'affaire a éclaté. Il y a un groupe qui s'appelle Brigade Française des Patriotes. On ne connaissait pas jusqu'au jour où Jamel Ben Laba a été tué le 31 août 2024 par un certain Jérôme D. Je n'ai pas le nom de la famille de la personne, mais qui est sous les verrous.
Oui, donc il n'a pas été jugé encore.
Mais qui était membre de cette Brigade Française des Patriotes. Voilà. Et on sait que c'est un groupe qui se revendique survivaliste, et qui a dans ses rangs d'ex-militaires amateurs de bivouac et de scènes d'entraînement au tir afin de préparer à rétablir l'ordre en cas de rupture de la normalité.
Oui, c'est bien dit ça.
Voilà. Alors, cette Brigade Française des Patriotes est familier des scènes de tir de la région, où se croisent d'ailleurs des policiers et des militants d'extrême droite. Et pour entériner l'appartenance au groupe fondé en 2018 par un ancien de la marine, les nouveaux venus se voient délivrer un diplôme au lisieré bleu-blanc-rouge, frappé d'un écusson figurant une tête de mort et que sternent ces mots « se préparer et résister ».
C'est nous, les gars de la marine. Enfin, oui, bon.
Ouais, bah, c'est plutôt se préparer et résister.
Je rigole.
Das Reich. Ouais, bon. Un membre de la BFP, qui est un ancien militaire, décrit un groupe très structuré avec un chef national qui est en Bretagne et des responsables régionaux. Beaucoup d'entre nous possèdent des armes, confie-t-il. On s'entraîne et on se prépare car on sait que la guerre civile est inévitable. Alors. Ce tueur-là, qui avait tué ce jeune personne d'origine maghrébine, était aussi en contact avec un groupe néo-nazi Alliance France, réplique hexagonale du mouvement néo-nazi belge Alliance Belgique. D'autres groupes ultra-droite sont actifs dans le Nord. Il y a par exemple le Parti de la France, du pétainiste Thomas Joly, qui appelle publiquement à procéder à des rafles. Les plus ancrés dans cette région-là sont certainement les ultranationalistes flamands du Gözenbund, adeptes de la rhétorique du grand remplacement, qui prêche la réunification de toutes les régions néerlandophones d'Europe,
c'est-à-dire
du Nord, de la Belgique flamande et des Pays-Bas.
Oui.
Voilà. Et le 28 mai 2024, ces narvis d'extrême droite se recueillent à Watten sur la tombe de l'abbé Jean-Marie Gantois. Alors en 1943, cet abbé, a rallié la doctrine nazie, avait écrit à Hitler pour lui demander le rattachement de la Flandre française au Reich allemand comme un membre de la nouvelle communauté germanique.
D'accord.
Ils appartiennent à la même nébuleuse identitaire que les ultranationalistes flamands de Schind in Verden.
Voilà. Donc, il y en a beaucoup, quoi.
Voilà.
Mais c'est des petits groupes. Hein.
Voilà, oui. Mais enfin, des petits groupes qui s'entraînent à...
Oui, un peu dangereux, oui, voilà. Effectivement.
Ce n'est pas que des trucs sportifs. Ils font surtout du sport de tir.
De combat.
De combat, voilà. Et qui, en plus, le responsable, Dri Van Langhoff, a été condamné au printemps 2024 par de la juste baise à un an de prison ferme pour détention d'armes et diffusion de messages à caractère raciste et antisémite.
Oui, voilà. Bon, ce n'est pas étonnant.
Alors... Pour Stéphane Vorton, qui est un membre de la CGT, c'est pour l'instant une minorité agissante. Ils recrutent parmi les étudiants les salles de musculation et le combat mixte et leur offrent un vivier. Le problème, c'est que lorsque de tels groupes sont dissous, leurs membres continuent de s'organiser dans l'ombre et se déclarent, si le RN gagne, ils seront dans la posture de former de véritables groupes paramilitaires. Voilà. Et Bernard Champagne de la Ligue des droits de l'homme redoute aussi la convergence de ces groupes. On n'est pas prêt, leur indiquement implique une mobilisation collective. Voilà, donc c'est des groupuscules à gauche, à droite, mais qui ont des liens entre eux et qui attendent la victoire de RN pour mieux s'organiser pour être le bras armé et la police parallèle.
Je crois qu'ils sont déjà.
Doctrine, voilà. Donc, affaire à suivre. Et bien sûr, ils sont dans l'optique que la guerre civile va arriver. C'est-à-dire, c'est ceux qui se disent les accélérationnistes. C'est-à-dire, on accélère le processus de guerre civile.
Oui, oui, oui. Bah, disons, entre eux et puis les islamistes, ça fait pas mal. Alors, bon, peut-être qu'on va passer maintenant à la rubrique d'Olivier
oui,
Morel.
Oui, voilà. Alors, les chroniques de l'Amérique trumpienne ou chroniques de l'une trompie. Alors, c'est la chronique, bien sûr, du 8 février, qui va être rediffusée le 12 février 2025, donc pour de 12h30 à 13h. Donc, alors, la chronique d'aujourd'hui, c'est « La Constitution des États-Unis est-elle menacée ?» Au-delà des mesures et déclarations effectuées par Donald Trump au fil des jours, on découvre des pratiques dont il n'a pas d'équivalence dans l'histoire de la démocratie américaine telle qu'elle avait été imaginée à la fin du XVIIIe siècle par les fondateurs de la République américaine. Le mot de République avait en effet un sens fort pour ceux qui l'ont constitué en l'Amérique qu'on connaît. À l'époque, c'était que des monarchies qu'il y avait. Donc,
oui, oui, bien sûr.
Donc, c'était nouveau. Voilà. La chronique de cette semaine s'intéresse particulièrement à ce qui se trame derrière les gestes effectués par Donald Trump et ses soutiens depuis le 20 janvier, une attaque contre le droit, et particulièrement contre les bases de ce qui a constitué la démocratie américaine. Et ce que propose l'universitaire franco-américain Olivier Morel, qui habite aux États-Unis et qui est en première ligne dans sa chronique, c'est ça, tout ça. Là. Donc, c'est un peu une crainte de.
Donc,
voir,
il va nous expliquer comment Trump et ses séides essaient
De renforcer son pouvoir personnel, une hyper-présidentialisation sans garde-fou. Voilà. Bon, on va écouter les chroniques d'Olivier Morel sur Radio Galère. Galère.
Ben oui, si il veut bien. Voilà. Et ben, on a quelques petits
concernés voilà. La dénégation, c'est-à-dire le refus de Donald Trump d'admettre que cet énorme volume d'idées et de programmes contenus dans ce qui est connu au moment de la candidature de Trump sous le nom de Project 2025. Ça veut dire en français le projet 2025, hein. Cette espèce d'agencement d'intellectuels du Trumpisme, hein, puisqu'il y en a, d'idéologues, de cerveaux qui ont littéralement construit un programme pour la seconde présidence de Trump. J'ai beaucoup pensé donc aux grandes lignes de ce que j'avais dégagé de ce fameux projet 2025 et à la manière dont un Donald Trump qui s'était méfié de ce projet parce qu'il était en vérité radical et qui proposait des choses dont la nature, je l'ai dit plusieurs fois, est disruptive, c'est-à-dire qu'il y a cette méthode de travail qui domine chez quelqu'un comme Elon Musk, par exemple, ou Jeff Bezos, qui consiste à entrer sur un marché avec des outils assez traditionnels, hein, non pas pour vendre mieux que les autres, hein, mais pour détruire le champ, afin de le reconstruire à sa manière et de pouvoir proposer sur le nouveau marché ainsi reconstruit des produits qui appartiennent aux destructeurs de ce champ et de ce marché. C'est ça la disruption. Alors, le projet 2025 était tellement disruptif, puisque c'est maintenant un mot à la mode, la disruption, l'adjectif disruptif, hein, que Donald Trump avait pris ses distances. Il se trouve que maintenant, de nombreuses voix s'expriment pour dire qu'il faudrait vraiment relire avec attention les 987 pages du projet 2025, parce que c'est en réalité ce que l'équipe, le groupe, j'allais dire presque la horde ou la communauté autour de Donald Trump, est en train de mettre en place aujourd'hui et au-delà. Et c'est ça le titre de la chronique aujourd'hui, c'est « Et au-delà ». Parce que si on s'intéresse au projet 2025, à ce que j'en disais il y a quelques mois, eh bien, on peut constater qu'il y a même un au-delà de la radicalité contenue dans ce projet. Alors, quel est cet au-delà ? C'est le thème de cette chronique, 3 semaines après l'investiture de Donald Trump qui a eu lieu le 20 janvier dernier. Alors pourquoi au-delà ? Pour comprendre, il faut s'intéresser à 2 choses. D'abord, il y a la logique de tout ce qui fait la une des journaux aux États-Unis et aussi un peu de la presse internationale, y compris la France, à savoir les mesures, toutes plus radicales les unes que les autres, ainsi que les déclarations faites par Donald Trump et le groupe qui constitue sa présidence. Et je dis bien le groupe qui constitue sa présidence parce que On est déjà dans la question de l'au-delà, quand je formule les choses ainsi, qui m'intéresse ici. À savoir que on ne pourrait pas dire de façon traditionnelle qu'il s'agit d'un gouvernement. Il s'agit d'un groupe. Il s'agit même pas d'ailleurs d'une équipe, puisqu'il y a une certaine cacophonie dans cette équipe. Alors un exemple de ça, bien sûr, c'est la figure de Elon Musk, dont il est beaucoup plus question et presque autant question que du président des États-Unis lui-même, et dont il est plus question que du vice-président des États-Unis, par exemple, qui prononce le nom de J.D. Vance, c'est-à-dire le vice-président des États-Unis actuellement. Ah bah pas grand monde, en fait. Qui parle des parlementaires du Congrès qui sont élus et qui ont gagné les élections à l'issue du scrutin du mois de novembre 2024, pas grand monde en vérité. Non, on parle énormément de Elon Musk. Et on parle de Elon Musk parce que, et j'y ai consacré de nombreuses chroniques, parce que son approche de la disruption est ce qu'il est en train de mettre en œuvre aujourd'hui, depuis quelques jours, dans l'accès sans équivalent historique que M. Musk a obtenu des bureaux, des ordinateurs, des lieux qui sont des lieux fondamentaux, sacrés presque, à l'intérieur de tout régime politique quel qu'il soit, à savoir, par exemple, l'administration fiscale. Ceci a été noté, ça a été dit, et bien sûr, c'est apparu dans les journaux. Monsieur Musk est à la tête d'un groupe, et je dis encore un groupe parce qu'on ne peut pas le qualifier autrement. C'est une espèce de formation indéfinie d'individus dont on ignore précisément les identités et les fonctions. On a quelques noms qui ont circulé, quelques profils qui ont circulé. Il y a par exemple dans ce groupe de très jeunes hommes en général. Le plus jeune a 19 ans, le nom et l'identité d'un autre a circulé, il a 25 ans. Bref, ce sont des hommes de main en quelque sorte, on pourrait les appeler ainsi, de M. Musk, qui sont issus, après avoir travaillé dans diverses positions ultra-technologiques tous, plus ou moins pour ce qu'on sait. Pour M. Musk à SpaceX, son agence de la conquête spatiale, par exemple. Bref, ce sont des jeunes hommes apparemment doués pour l'informatique, qui maîtrisent les outils de l'intelligence artificielle et qui se promènent, qui le week-end dernier même était évoqué par Elon Musk lui-même, parce que le week-end passé a été un de ces moments où Elon Musk s'est même glorifié d'avoir eu accès à tous ses bureaux en l'absence des employés fédéraux, encore une fois, notamment de l'administration fiscale américaine et des institutions qui sont en charge du budget américain. Alors, l'administration qui a été créée par M. Trump dès son arrivée à la Maison-Blanche s'appelle le DOGE, c'est-à-dire le D-O-G-E. C'est-à-dire, c'est une agence qui est en charge officiellement de mettre en œuvre la réduction des coûts afférents aux dépenses gouvernementales. Bref, en gros, le budget de l'État américain, qui est de plusieurs trillions de dollars, c'est-à-dire plusieurs milliers de milliards de dollars. Le but affiché de Donald Trump dans la mise en place de cette institution, de cette nouvelle institution, était, je cite, de démanteler la bureaucratie gouvernementale, d'éradiquer les régulations, les règles excessives qui régissent le gouvernement. Et je souligne ceci, de se débarrasser des dépenses inutiles afin de restructurer les agences gouvernementales. Fin de citation. Alors, M. Musk a accédé à ses ordinateurs, à ses archives donc, à ses bureaux, sans véritablement avoir un motif légal explicite, donc sans une véritable autorité et sans un véritable contrôle, notamment parlementaire. C'est le pouvoir exécutif qui s'est imposé en la matière et les parlementaires, qui sont à majorité des élus fidèles à M. Trump, n'ont évidemment pas levé un sourcil face à ce que les commentateurs considèrent comme une grave ingérence dans le système gouvernemental, au cœur du système gouvernemental. Un des aspects de cette ingérence, c'est que, en principe, pour avoir accès aux dossiers fiscaux d'individus dans un pays comme les États-Unis, Il faut un mandat légal pour le faire, c'est-à-dire par exemple un pouvoir d'investigation, qu'il soit policier ou autre. Ce dont M. Musk n'est pas prémuni lorsqu'il effectue cette opération. Il y a d'ailleurs une plainte légale devant les tribunaux qui proteste contre la violation des lois sur la vie privée que contient cette attaque de M. Musk et donc de la présidence Trump contre l'administration fédérale. Alors ça, c'est très important parce que c'est ça le thème de la chronique, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de la mise en œuvre d'une politique au sens traditionnel, à quoi nous assistons, mais d'une procédure qui se place en dehors de droits fondamentaux qui sont au cœur de l'institution et au cœur même de la Constitution des États-Unis. Et quand je dis Constitution des États-Unis, je ne pense pas seulement à la Constitution comme document légal, mais l'acte qui a constitué les États-Unis. Alors revenons à l'importance de ce verbe, qu'est-ce que c'est que constituer une république ? Alors, des juristes, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il y aura une dimension légale très importante dans cette chronique aujourd'hui. Des juristes se sont alarmés avant l'arrivée de M. Trump et depuis quelques jours de surcroît par le fait que, précisément, il est mis en place aujourd'hui par l'administration de M. Trump des décisions qui ont la forme de décrets qui ont pour caractéristique de non seulement mettre en œuvre une politique, mais de mettre en œuvre une politique qui met en danger ou conteste les fondements de la mise en œuvre même de cette politique. Alors je vais expliquer bien sûr cela. Qu'est-ce qui se passe depuis plusieurs jours ? Depuis plusieurs jours, nous avons une série de décisions exécutives, donc de décrets pris par Donald Trump, qui par exemple visent à changer ce qu'on appelle le « jus soli » en droit romain, c'est-à-dire le fait d'être né quelque part et que ça détermine l'appartenance citoyenne du nouveau-né et du futur adulte. En d'autres termes, c'est ce qu'on appelle le droit du sol. Monsieur Trump veut mettre en cause le droit du sol, donc c'est une attaque contre le droit. De la même manière, une illustration de ceci, et tout le monde l'a en mémoire, bien sûr, quand M. Trump dit qu'il veut transformer Gaza en Côte d'Azur et que pour ce faire, il sera nécessaire de « remove », c'est-à-dire « doter » en anglais, c'est-à-dire de déplacer, c'est-à-dire en vérité d'arrêter, de coffrer, de rafler et de transporter, ça s'appelle un transfert de population en droit international, 1 700 000 Gazaouis. Avec une nonchalance et une désinvolture dont M. Trump a le secret, il annonce ceci en pleine conférence de presse lors de la visite officielle du responsable du pouvoir exécutif israélien, M. Benjamin Netanyahu. Donc c'est une décision qui, en droit, et là encore, c'est une question de droit, comme la mise en cause du droit du sol, c'est une décision qui, en vérité, aurait le statut, en droit international, c'est pas moi qui déclare ça, c'est le droit international. Aux yeux du droit international, qu'est-ce qu'un transfert forcé de population ? C'est un crime contre l'humanité. Donc il annonce en conférence de presse qu'il est tout disposé à perpétrer un crime contre l'humanité. La même chose vaut pour les actions prise par décret également de M. Trump contre les droits de douane. Et je répète le mot encore, les droits de douane. M. Trump, comme on le sait, remet en cause des droits qui sont hérités de la période des droits sociaux, c'est le droit. Qu'est-ce que c'est le droit ? Le droit, ce sont des règles qui sont dans une république, comme le sont les États-Unis depuis la fin du XVIIIe siècle, avant la Révolution française d'ailleurs. Le droit, ce sont des règles qui sont discutées, élaborées, rédigées et votées par des représentantes et par des représentants du peuple. Donc c'est la voix du peuple qu'on met en cause quand on met en cause le droit dans une république. Eh bien, un des angles de l'action gouvernementale de M. Trump, et on devrait dire de l'action exécutive de M. Trump, est-ce que c'est du gouvernement ? On verra dans un instant. Est-ce que ça appartient au droit et au droit républicain au sens de la République ? On le verra dans un instant. Mais en tout cas, là, il y a une mise en place, destruction systématique, ça a été rapporté, de toutes les règles qui sont construites à l'intérieur du système légal américain et qui permettent de promouvoir l'égalité entre les minorités, la représentation des minorités, qui permettent de promouvoir les limitations contre les discriminations, tout ce qu'on appelle en français la discrimination positive, c'est en place depuis les droits sociaux et ça a permis à des groupes entiers de populations issues des minorités américaines d'accéder à des fonctions dont elles étaient sociologiquement, culturellement et aussi légalement barrées avant les droits sociaux, c'est-à-dire avant 1965. 1965 étant la date à partir de laquelle les États-Unis deviennent une vraie démocratie, où les Noirs ont aussi le droit de voter. Donc, des milliers de pages, 8000 pages, de droits, de régulations, permettant ce qu'on appelle « diversity, equity and inclusion », c'est-à-dire toutes les lois permettant l'affirmation des droits des minorités, je reviens encore sur le mot de droit, ont été annulées et détruites, c'est une opération de destruction, dès les heures qui ont suivi l'installation de M. Trump et de son groupe à la tête de l'État américain. On pourrait souligner, on pourrait revenir là-dessus, que ceci est aussi une forme de racisme, puisque lorsque l'accident qui a été le résultat d'une collision entre un hélicoptère et un avion de ligne le 29 janvier à Washington DC, lorsque cet accident a lieu, une des premières choses que M. Trump et les voix autour de lui ont exprimées, avant même, ou en diminuant, n'est-ce pas, les expressions de compassion pour les victimes et leurs familles, les propos qui étaient tenus par Donald Trump et ses fans et son groupe consistaient à dire que l'accident avait eu lieu parce qu'il y avait des lois qui promulguaient, qui soutenaient l'entrée des minorités, l'accès des minorités aux positions, au travail dans les institutions fédérales. En l'occurrence, il s'agissait de l'administration fédérale qui régule le trafic aérien. En d'autres termes, leurs propos consistaient à dire « il y a eu cet accident d'avion parce qu'il y a des droits qui promeuvent des gens qui sont embauchés, non pas parce qu'ils sont compétents, mais parce qu'ils sont membres d'une communauté, membres d'une minorité ». Ça définit le racisme, cette attitude et ces propos qui consistent à dire que les employés sont incompétents parce qu'ils sont liés à une appartenance ethnique. C'était le discours officiel de Donald Trump et de ses alliés au soir de cet accident d'avion. Que les régulateurs du trafic aérien n'étaient pas compétents pour faire leur travail parce qu'ils avaient été embauchés à cause de la couleur de leur peau et non pas à cause de leurs compétences. De nombreux soutiens de Donald Trump l'ont dit explicitement avant et après cet accident et l'ont dit pour soutenir la destruction des droits civiques qui sont en place dans le système législatif américain. Cela a été fait sans le contrôle d'aucun vote à l'intérieur du Parlement. Ce sont des décrets qui ont permis ceci. Alors, pourquoi c'est important ? C'est important parce que nous parlons ici du droit. Il s'agit d'une attaque contre le droit. Il s'agit d'une attaque contre le droit qui est perpétrée à la suite de décrets qui ouvrent une séquence historique qui est entièrement nouvelle dans l'histoire des États-Unis. Alors, qu'elle soit nouvelle ne veut pas dire qu'elle a été complètement occultée, ignorée et qu'elle n'a pas été anticipée. En fait, il y a une voie très importante dans l'histoire de l'élaboration des institutions américaines à la fin du XVIIIe siècle, autour de 1787 pour être plus précis, une voie très importante qui s'est exprimée pour dire « Attention, 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 rédacteur de la Constitution américaine, on est en train d'écrire une Constitution qui donne un pouvoir très important à un chef de l'exécutif. C'est le président des États-Unis. » Et cette voix disait, on a peut-être pris un risque en donnant un pouvoir à ce chef de l'exécutif, c'est-à-dire au président des États-Unis en tant que chef des armées, comme quelqu'un qui peut signer des traités et accorder des pardons, quelqu'un qui a un certain pouvoir législatif, celui d'écrire des décrets et de les faire passer sans contrôle parlementaire, sauf à ce que le Parlement se réunisse dans une majorité extrême, c'est-à-dire les deux tiers, pour casser ces décrets. Et donc, ce rédacteur, ce concepteur, ce constituant de la République américaine à la fin du XVIIIe siècle, disait également « Attention, parce qu'on risque d'avoir un autocrate un jour ou l'autre qui prendra le pouvoir à l'intérieur du système et qui utilisera les pouvoirs présidentiels de façon immorale, qui est l'homme qui avait émis ses réserves sur la présidence des États-Unis telle qu'elle apparaissait dans la nouvelle Constitution américaine, c'est George Washington lui-même. C'est l'homme qui a donné son nom à la capitale des États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il fut le premier président des États-Unis. Il ne tenait qu'à lui d'instiller, de créer une coutume qui allait précisément aussi montrer l'éthique du président des États-Unis dans l'esprit, dans une interprétation de la lettre de la Constitution. Qu'est-ce que fait George Washington, par exemple ? Il va quitter le pouvoir après son second mandat. Et il va instaurer là une tradition que Donald Trump lui-même a évoquée comme n'étant pas une nécessité absolue. Encore une attaque contre le droit, et là, c'est le droit constitutionnel. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire ici pour conclure ? On est en train de dire deux choses. On est en train de dire que il fut une époque, après les annonces et les alertes de George Washington, où la démocratie américaine a tremblé sur ses bases. Cette époque, elle n'est pas si lointaine. C'est celle qui a vu l'apparition, en tout cas au XXe siècle. On pourrait parler d'un autre président des États-Unis que M. Trump adore, d'ailleurs, mais on y reviendra plus tard. Donc le président du XXe siècle, assez récent, qui a fait trembler sur ses bases la République américaine, la République, c'est-à-dire Respublica, n'est-ce pas ? Pour George Washington, les États-Unis et pour les constituants du XVIIIe siècle, il s'agit d'établir une république. On regarde le droit romain, on pense à la démocratie athénienne, et on sait que les lois sont des lois et qu'elles peuvent toujours être subverties par des individus. Donc on met des régulations autant que possible, c'est ça la constitution de la république, pour empêcher les abus de pouvoir. Donc il y a eu un moment où, dans l'histoire des États-Unis récente, un président peu scrupuleux a commis des actes dont il savait pertinemment qu'ils étaient inacceptables. Et ce président, c'était Nixon. Seulement, il y a une différence entre Gerald Nixon et le président des États-Unis aujourd'hui, Donald Trump, c'est que Nixon savait très bien qu'il avait poussé les limites de la présidence américaine en faisant des choses qui vont conduire au Watergate et qui vont le conduire à démissionner. Il va perdre le pouvoir dès que ses malfaisances vont être dévoilées au grand jour. Et il ne va pas perdre le pouvoir parce que ces malfaisances ont été dévoilées au grand jour, parce que la presse les a révélées dans le scandale du Watergate. Non, c'est parce que son propre parti politique a fini par le désavouer. Or, cette chose ne s'est pas produite sous Donald Trump. Donald Trump a exigé le loyalisme au cours de sa première présidence, il exige maintenant la soumission. Donc Donald Trump est différent parce qu'il est sans scrupules et qu'il agit à ciel ouvert et qu'il n'y a pas d'opposition. Or, ça serait suffisamment grave si Donald Trump n'était pas en train de s'attaquer au droit, c'est-à-dire au fondement de cette fameuse République américaine, de ce qui a constitué les États-Unis comme une République au XVIIIe siècle. Il y avait, au XVIIIe siècle, dans l'esprit des constituants, il y avait bien sûr un Parlement, c'est-à-dire un pouvoir législatif, qui pouvait contrebalancer les abus de pouvoir d'un président. Mais il y avait aussi un système judiciaire. Et à la tête de ce système judiciaire, il y a la Cour suprême des États-Unis, qui a le pouvoir de dire au président, indépendamment de l'avis du Parlement et du peuple même, et quelquefois contre le peuple, la Cour suprême a le droit de dire « la Constitution ne peut être violée ». C'est pas contre le peuple, c'est contre la Constitution, là. C'est-à-dire les parlementaires élus, le peuple. La Constitution des États-Unis, c'est-à-dire les fondateurs de la République, c'est-à-dire les fondements de la République, ne peuvent pas être violés. La Cour suprême a ce pouvoir-là. C'est le pouvoir de judicial power, le pouvoir de la branche judiciaire. Alors maintenant, j'ose dire qu'il y a un risque que les fondements de la démocratie, c'est-à-dire du droit américain, c'est-à-dire la Constitution américaine, soient attaqués par cette multitude d'attaques contre le droit, y compris le droit international, dans les déclarations que M. Trump fait sur le transfert de la totalité du peuple palestinien vivant sur sa propre terre à Gaza, c'est une attaque contre le droit international. Il y a des traités internationaux et il y a aussi ce qu'on appelle un Bill of Rights, c'est-à-dire c'est une attaque contre les droits et les libertés individuelles d'un peuple, certes non américain, mais ça s'applique aussi aux États-Unis. Parce que dans l'affaire de l'attaque que M. Musk est en train de perpétrer contre, par exemple, les dossiers fiscaux des individus vivant aux États-Unis, il y a une attaque contre les droits et libertés individuelles. On verra ce que disent les tribunaux, mais il y a des chances que ça soit reconnu comme une attaque contre le Bill of Rights, c'est-à-dire une portion de la Constitution des États-Unis. Donc le risque, il est le suivant, et je vais conclure là-dessus. Le risque, c'est la Cour suprême. En fait, le dernier rempart maintenant, c'est la Cour suprême. Ce n'est pas les juges qui ont joué un rôle considérable au cours de la première présidence de Trump. On pense maintenant que la Cour suprême est le dernier rempart. Que va-t-il se passer? Que pourrait-il arriver si la Cour suprême des États-Unis faisait fi du droit constitutionnel et favorisait Trump? Et l'inverse, que se passerait-il si M. Trump faisait fi des décisions, des avis de la Cour suprême des États-Unis? Il y a un au-delà à tout cela. Et quel est cet au-delà?
T'es rassuré, Jacques, hein?
Pas vraiment.
La démocratie en marche.
Oui, mais enfin, comme je me disais un ami hier soir, il semblerait que Trump se rapproche de plus en plus d'un certain Benito Mussolini.
Oui, et Musk d'un certain AH.
Oui, pas bon, ça, c'est encore une autre histoire.
Oui, voilà. Bon, mais écoutez... D'ailleurs, faut savoir que Donald Trump retire à Joe Biden l'accès aux renseignements classés confidentiels.
Oui, pourquoi pas.
Voilà. Les sportives transgenres américaines bannies des compétitions universitaires.
Aussi, oui. Il y en a pas mal comme ça, de toute façon. Il y en a une ou deux ou trois tous les jours. En fait.
Bon, enfin, de toute façon, on en parlera aux informations internationales, puisqu'on parlera aussi de Trump, hélas. De quelques-uns de ses décrets, un dixième de ses décrets, parce qu'il en a fait tous les jours.
Il y en a vraiment beaucoup et c'est très difficile. Alors, de parler de tous. Eh bien, aujourd'hui, dans C'est la même chanson, ça va être l'été dans la ville. Donc...
L'été?
Oui, l'été.
T'as trouvé qu'aujourd'hui, c'était l'été?
Ben non, mais je me suis dit, bon, avec un temps de... Comme il y a aujourd'hui...
Un temps de Trump.
Ben c'est bien que les auditeurs puissent avoir quelques chaleurs, quoi. Qu'ils puissent se dire, bientôt on va se retrouver sur la plage avec la serviette éponge et l'équipe de bronzage.
Le réchauffement climatique, les incendies de forêt...
Bon, je vois
les méduses sur la plage,
je vois que tu ne veux pas devenir. D'un optimisme inébranlable.
Oui.
Donc aujourd'hui, Summer in the City. C'est la même chanson, les Lovin' Spoonful. Ce groupe a laissé dans l'histoire du rock l'image d'un groupe dit de « good time music » comme la définissait John Sebastian, le chanteur leader du groupe. Il faut noter qu'il ne fait pas l'objet d'un culte particulier tel que les Beau Brummel ou les Byrds, concurrents contemporains dans le domaine du folk rock. Si on les compare aux Byrds, ils paraissent plus commerciaux et moins influents. Nombre de groupes se sont réclamés des Byrds et très peu des Lovin' Spoonful. Et pourtant, d'ailleurs, on peut quand même citer les Flaming Groovies, qui s'inspiraient pas mal des Lovin' Spoonful. En 1964, c'est la queue de comète du revival de la musique folklorique américaine. Un revival qui a vu l'émergence d'artistes comme Bob Dylan ou John Baez. À New York, John B. Sebastian décide de passer à l'électricité et s'associe avec le guitariste canadien Zal Zanowski, qui joue auparavant dans un groupe folk beatnik, les Moonwomps, avec Cass Elliot et Denny Doherty, qui formeront ensuite la moitié des Mamas and the Papas, les auteurs de Monday Monday ou encore California Dreamin'. Les Lovin' Spoonful donc sont complétés par le batteur-chanteur Joe Butler et le bassiste Steve Boone. En 1965, c'est le premier single « Do You Believe in Magic ?». Précisons que, contrairement à de nombreux groupes de l'époque, les Lovin' Spoonful jouent de tous les instruments sur ces titres et composent la majorité de son répertoire. « Do You Believe in Magic ?» se classe dans le top 10. C'est le premier titre d'une série de singles qui vont faire mouche entre 1965 et 1966. Parmi ces hits, on peut citer « You Didn't Have to Be So Nice » et « Daydream » qui atteint la seconde place des charts. À cet instant, The Lovin' Spoonful est sans conteste le groupe avec les racines jug band qui a le plus de succès. Alors il faut savoir que les orchestres dits jug band sont des groupes qui utilisent des instruments traditionnels et d'autres faits maison, comme la planche à laver, la cruche, les cuillères, le casou. Près de la moitié des titres du premier album du groupe sont inspirés par la jug band musique. La popularité des Lovin' Spoonful va inspirer la création de groupes de revival jug band comme par exemple Jim Cashquin jug band ou encore The Even Dozen jug band. Ces racines sont évidentes dans leur musique et sont présentes dans la majorité de leurs disques. on peut se faire une idée d'éditeur Racine dans leur tube Daydream qui mêle guitare sèche, électrique, basse électrique, harmonica de Sébastien et piano honky-tonk. Leur plus grand tube sera Summer in the City pendant l'été 1966. Ce morceau incorpore le bruit des chantiers et de marteaux-piqueurs et c'est un hommage à cette saison. Un numéro 1. Il existe pas moins de 120 versions de Summer in the City, mais pour l'heure, on va d'abord écouter l'original. Summer in the City, The Loving Spoonful.
Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity, doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night it's a different world, go out and find a girl. Come on and dance all night, despite the heat it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights. In the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world, go out and find a girl. Come on and dance all night, despite the heat it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights. In the summer, in the city, in the summer, in the city.
C'était les Loving Spoonful avec Summer in the City. La deuxième version que je vous propose est celle des Comatines, un duo américain, surtout actif durant les années 80. Un duo qui pratique un électro-punk rock tout à fait recommandable. Et bien entendu, ils ont fait une version de Summer in the City. On l'écoute.
Pourquoi t'as des punks qui ne sont pas recommandables?
Bah, ceux-là sont recommandables, très cher.
D'accord.
Days all night. Just like the heat, it will be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city, yes, in the summer, in the city, in the summer, in the city, in the summer.
Oui, il y a guère qu'à la fin où ça ressemble un peu à la version originale. Alors, on va passer à la troisième et dernière version, une version inattendue.
Ah oui ?
Oui, celle des Stranglers.
Ah, les Stranglers ?
Oui, les Stranglers qui nous parlent donc de l'été dans la ville.
Ah bon, c'est quoi, un étrangleur de l'été dans la ville ?
Non, c'est le groupe Les Stranglers. Une version enregistrée en janvier 1997.
J'espère que tu ne vas pas t'étrangler la voix.
Voici en tout cas Les Stranglers Summer in the City.
Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and being down, isn't it a pity? It doesn't seem to be a shadow in the sun. All around me, people looking at their choking on the sidewalk. Sadder than a mouse head. At night, it's different town. Go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night. Just what you need, it'll be all right. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like an ant in the summer, in the city, in the summer, in the city. Out town, summer in the city. Back of my neck getting dirty and being down. Doesn't seem to be a shadow in the sun. All around me, people looking half dead, choking on the sidewalk. The sidewalk down a mountain.
Les Stranglers avec leur version originale pour le moins de Summer in the City.
Une version étranglée.
Bon, d'accord, ça va, elle n'est pas bonne. C'est pas grave. Eh bien, on va continuer donc ces infos hebdomadaires de la semaine avec quelques informations internationales.
Mais comme par hasard, on va parler de...
Ah, encore, j'en ai marre de parler de Trump.
Le fou du réseau social, le fou de Twitter, Trump sur X, plus que c'était du X, Trump le signateur de décret, Et on ne va pas faire les décrets qu'il entend de signer depuis le 20 janvier.
Il y en a trop. Mais enfin, moi, c'est le fait de quoi parler, hein, c'est pas mal.
Oui, oui. Mais bon, après, il y a quand même des choses assez inquiétantes, quand même. Hein, parce que Donald Trump signe un décret prévoyant des sanctions contre la Cour pénale internationale.
Et c'est normal, parce qu'elle a inculpé son meilleur ami, un certain Benjamin Netanyahu.
Pas que ça.
Entre autres. Hein.
Trump a signé un décret prévoyant des sanctions contre la Cour pénale internationale, accusé d'avoir engager des actions illégales et sans fondement contre l'Amérique et son proche allié Israël. Ça fait référence, bien sûr, à des enquêtes sur des crimes de guerre présumés de soldats américains en Afghanistan et de militaires israéliens dans la bande de Gaza. Ouais. Le texte interdit l'entrée aux États-Unis des dirigeants, des employés et des agents de la CPI, ainsi qu'aux plus proches membres de leur famille et à quiconque considéré comme ayant apporté son aide aux travaux d'enquête. Le décret prévoit également de geler tous les avoirs détenus aux États-Unis par ces mêmes personnes. Bon, ce qui va quand même assez loin, quand même.
Oui, c'est sûr.
Voilà. Alors, dans un communiqué, la CPI condamne la publication par les États-Unis d'un décret visant à imposer des sanctions à ses fonctionnaires et à nuire à son travail judiciaire indépendant et impartial. La Cour soutient fermement son personnel et s'engage à continuer de rendre justice et de redonner espoir à des millions de victimes innocentes d'atrocités à travers le monde dans toutes les situations dont elle est saisie. En Israël, le ministère des Affaires étrangères s'est réjoui de ces sanctions.
Bah, voilà. Tu m'étonnes, ouais. Oui.
Et il avait déclaré aussi que la Cour n'avait aucune légitimité dans la mesure où Israël et les États-Unis ne sont pas membres de la CPI. Et oui, c'est vrai.
Oui, oui. Bah, donc à ce moment-là, les sanctions qu'il prend, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin,
oui, oui, oui. Sauf que ceux qui enquêtent ne peuvent pas aller aux États-Unis.
Par exemple, oui.
Oui, ainsi que leurs proches, ce qui est bien plus grave. De son côté, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a demandé aux États-Unis de reconsidérer leur décision. Et a déclaré, la CPI devrait être pleinement en mesure d'entreprendre son travail indépendant lorsqu'un État ne veut pas ou ne peut sincèrement pas mener une enquête ou lancer des poursuites contre, comme le stipule le statut de Rome, c'est-à-dire le traité international à l'origine de la CPI adopté en 1998. La Cour est un élément essentiel de l'infrastructure des droits de l'homme, a-t-elle ajouté. C'est le Haut-Commissariat des Nations Unies qui a ajouté ça.
D'accord.
Et le Premier ministre néerlandais a déclaré que son pays, en tant que pays hôte, chercherait à s'assurer que la CPI puisse continuer à fonctionner sans entrave malgré les sanctions américaines. Et aux côtés de l'Union européenne, a dit de regretter la décision américaine, se réservant la possibilité de prendre des mesures de son côté. Et elle a ajouté, l'Union européenne, la CPI joue un rôle important dans le maintien de la justice pénale internationale et la lutte contre l'impunité, y compris en Ukraine. Sanctionner la CPI menace l'indépendance de la Cour et mine l'ensemble du système de justice internationale, ce qu'a déclaré le président du Conseil européen, Antonio Costa.
Ce dont Donald Trump n'a absolument rien à foutre.
Voilà. Alors, il faut savoir que les républicains américains et de nombreux démocrates s'étaient indignés de l'émission d'un mandat d'arrêt de la CPI contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
Netanyahu.
Voilà.
On va y arriver.
Voilà. Ainsi, contre l'ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, les juges ont estimé qu'il y avait des motifs raisonnables de soupçonner les deux hommes de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour la guerre dans la bande de Gaza qui a suivi l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien. Monsieur Netanyahu avait qualifié la décision d'antisémite.
Bien sûr.
Voilà. Alors, fondée en 2002, la CPI compte aujourd'hui 125 États membres et n'a prononcé depuis sa création qu'une poignée de condamnations. La décision de M. Trump a été annoncée peu après qu'il a créé une polémique internationale en déclarant que les États-Unis allaient prendre possession de la bande de Gaza et en assurer le développement économique et immobilier, tandis que les Palestiniens qui y résident seraient déplacés. Ce qui est les placements de population, il faut savoir, dans la juridiction internationale, ça correspond à un crime contre l'humanité.
Oui, oui, mais d'ailleurs, c'est quand on parle de Summer University, alors peut-être que Trump voulait que les Israéliens puissent écouter Summer University à Gaza, hein, tranquille, sur la plage.
Ah bon ?
Oui. Bon, en tout cas, sachez aussi que Trump veut envoyer jusqu'à 30 000 sans-papiers à Guantanamo. Et Guantanamo, c'est une prison militaire américaine au sud-est de Cuba, et elle est tristement célèbre pour avoir longtemps été associée à des pratiques de torture. Alors Trump a annoncé le 29 janvier préparer l'envoi de sans-papiers sur la base d'aval de Guantanamo. Le républicain a précisé dans un mémorandum prévoir de porter à pleine capacité un centre de rétention de migrants déjà existant sur la base pour y enfermer des criminels étrangers présents de manière illégale sur le territoire américain. Jusqu'à 30 000 personnes pourraient y être détenues selon le nouveau locataire de la Maison-Blanche. Le site en question est distinct de la prison de haute sécurité controversée utilisée par les autorités américaines à la suite des attentats du 11 septembre pour détenir des ressortissants étrangers suspectés de terrorisme. Depuis plusieurs décennies, le centre pour migrants sert occasionnellement à héberger des Haïtiens et des Cubains repêchés en mer notamment. Le site pourrait être agrandi avec l'aide de l'armée qui pourrait contribuer aux travaux de construction, souligne la chaîne américaine CNN. Ces dernières semaines, environ 40 000 migrants ont été arrêtés et emmenés dans des centres de détention privés et des prisons locales à travers le pays, les contraintes financières ayant limité le nombre de sites de détention disponibles, explique le New York Times. Le quotidien estime aussi toutefois que l'ajout de 30 000 lits augmenterait considérablement la capacité de détention du gouvernement américain. Cette nouvelle annonce anti-immigration, l'une des plus spectaculaires à ce jour, pourrait toutefois se révéler compliquée à mettre en place. En effet, Guantanamo est très petit et très isolé. Faire entrer et sortir des matériaux et des personnes serait un cauchemar logistique, a affirmé au New York Times Deborah Fleischacker, une ancienne responsable de la police du contrôle des frontières sous l'administration Biden. Les hommes seront-ils les seuls concernés? Y aura-t-il des femmes et des enfants? Si c'est le cas, la question du logement deviendra alors encore plus compliquée, note-t-elle. Le projet n'a d'ailleurs pas manqué de provoquer mercredi la colère des organisations de défense des droits de l'homme, rapporte Foreign Policy. Une autre idée terrible, juste au moment où nous nous rapprochons de la possibilité de fermer la prison illégale qui y existe déjà, a réagi sur X Daphné Eviatar, directrice du programme Security with Human Rights à Amnesty International USA. Les présidents démocrates Barack Obama et Joe Biden ont tous deux exprimé le souhait de fermer Guantanamo lors de leur mandat, mais sans jamais y parvenir.
Bon, mais on reste toujours un peu sur l'Amérique et sur les baptêmes de noms de mer. Hein. On sait que Trump voulait baptiser le golfe du Mexique le golfe américain.
C'est ça, oui, oui.
Moi, je pense qu'on doit baptiser le golfe de Louisiane, hein, pour être bien franchi, bien français.
Oui, mais pourquoi pas, oui.
Tant qu'à faire, hein, voilà. Mais c'est Musk. Musk, lui, il veut multiplier les polémiques, et oui. Et il a proposé qu'il veut soit rebaptiser la Manche.
Ah bon, ah ouais, pourquoi
oui,
pas.
Oui, voilà, voilà. Alors, sur X, dans son réseau pornographique, proposé sur le réseau social X, il a proposé un nouveau nom pour l'eau qui sépare l'Angleterre de la France. Voilà. Alors que Donald Trump a proposé, lors de son investiture, de renommer le golfe du Mexique en golfe d'Amérique, Musk, le directeur du département de l'efficacité gouvernementale, c'est bien, ça me rappelle un peu Orwell, les ministères de Orwell.
C'est ça, oui.
De 1984. Il suggère de rebaptiser la Manche le canal George Washington.
Ah, de Michigan,
t'as bien fait. Le nom du premier président des États-Unis.
Alors, et pourquoi?
Ah ben ça, je ne sais pas, parce que c'est aussi étonnant, parce que George Washington n'a jamais traversé la Manche.
Ah oui, donc il ne savait même pas que ça existait.
Voilà, bon, voilà, d'accord. Et que ce nom de la Manche est un nom qui est utilisé depuis le XVIIe siècle.
Ah, non.
Alors, va-t-on reconquérir l'Angleterre? Pourquoi pas? Tout le monde sait que la Grande-Bretagne est officieusement le 50e État. Se sont amusés certains internautes qui ont répliqué là-dessus. Voilà. Mm-hmm. Alors, bien sûr... c'est avec cette nouvelle provocation, Elon Musk rejoint les ambitions expansionnistes de Donald Trump et démontre sa volonté de s'immiscer dans la vie politique européenne. Déjà, bon, s'immisçant déjà dans les élections allemandes, avec le soutien
oui,
de
mais en Angleterre voilà. Aussi, où il a violemment critiqué le gouvernement travailliste.
Oui, voilà. Donc, la Manche va s'appeler la mère George Washington.
Au bout d'un moment, ça devient tellement...
En fait, l'océan Atlantique va être s'appeler l'océan Trump.
Non, mais toi, je
et l'océan Pacifique, l'océan Musk.
Franchement, tu sais que j'avais fait un éditorial où je parlais du Père Ubu qui avait pris le pouvoir, et finalement, on est complètement là-dedans. Hein.
Oui, c'est une situation ubuesque. Alors, à la fois, c'est être le meilleur des mondes, une situation ubuesque, et Orwell. On a 1984, on a toutes les dystopies.
Oui, mais c'est pas mal, oui, enfin bon. Alors, bon, on parle maintenant de l'aide internationale gelée par les États-Unis. Ils sont des millions de par le monde plongés depuis le 20 janvier dans l'incertitude. Il s'agit des personnes directement affectées par le gel brutal de l'aide américaine, la première en termes de montant, décidée par Donald Trump dès son arrivée à la Maison-Blanche. Le républicain estime, selon le décret exécutif qui a bloqué instantanément des milliers de programmes alimentaires et de santé, que ces derniers ne sont pas alignés sur les intérêts américains et, dans de nombreux cas, contraires aux valeurs américaines. Il assure même que ces programmes servent à déstabiliser la paix mondiale en promouvant dans les pays étrangers des idées qui vont directement à l'encontre de relations harmonieuses et stables à l'intérieur des pays et entre les pays. Une telle affirmation laisse songeur. Il est en effet évident que le financement des traitements contre le sida, dont dépendent plus de 20 millions de patients africains, l'aide alimentaire à un pays en guerre comme le Soudan, ou les opérations de déminage conduites dans de nombreux pays, parmi tant d'autres, contribuent au contraire au bien-être et à la stabilité. Dans certains cas, comme celui des programmes d'aide au développement en Amérique centrale, les conséquences d'un tel gel pour des pays en proie à diverses formes de violence sociale risquent même de l'alimenter, ce que Donald Trump veut endiguer, c'est-à-dire l'immigration. Certes, le gel n'est officiellement en vigueur que pour 3 mois, le temps d'une révision projet par projet, qu'aucun expert en la matière ne juge possible en un temps aussi court. Le chaos entraîné par le décret exécutif a conduit le nouveau secrétaire d'État américain Marco Rubio à décréter dans l'urgence des exemptions dont profitaient déjà Israël et l'Égypte, ajoutant au désordre. La peur de représailles de la part de la nouvelle administration américaine, qui pousse de nombreux acteurs au silence, ne permet sans doute pas, par ailleurs, de mesurer l'ampleur du désastre. Alors qu'il est devenu tendance pour certains de s'esbaudir devant la volonté du président des États-Unis à couper sans réfléchir dans les dépenses fédérales, procéder à un examen détaillé de cette aide internationale au lieu de la geler uniformément aurait été de bien meilleure politique. Le tollé provoqué par la même mesure, immédiatement bloquée par un juge fédéral, a d'ailleurs constitué la première embardée sérieuse de son administration obligée de se dédire. Dans le cas de l'aide internationale, d'autres éléments sont à prendre en compte, outre la vision étriquée du gaspillage de l'argent des contribuables. Les 70 milliards de dollars, c'est-à-dire 67,5 milliards d'euros, octroyés par le Congrès, consacrés aux 3/4 à l'aide humanitaire, à la santé, au développement, sont un pilier du soft power des États-Unis face à la Chine, qui a conduit depuis des décennies dans de très nombreux pays une très active diplomatie des infrastructures. Nul doute que Pékin prend note de ses renoncements de Washington, tout comme il est attentif au malaise créé par les coups de menton intempestifs du président des États-Unis envers ses alliés. Gesticuler est une chose, manier une tronçonneuse une autre. Faire les deux simultanément est déconseillé quand on se fixe comme objectif la défense des intérêts de son pays. C'est le moins qu'on puisse dire.
Alors, on va changer de pays, cette fois, on va revenir en Europe, en Suède.
Ah.
Alors, pour un fait plutôt de société. La Suède s'inquiète d'une crise de la lecture chez les jeunes.
Ah ben, clairement, ils regardent les écrans. Hein.
Voilà. Fin 2024, les géants suédois du secteur du livre ont constaté une hausse de 10 à 15% des ventes de livres pour enfants et adolescents. Ah. Pour eux, une seule explication. Les parents auraient enfin pris la mesure de la gravité de la crise de la lecture discutée en Suède depuis plusieurs années et passée tout en haut de l'agenda politique après que des professeurs d'université ont tiré la sonnette d'alarme. Mmh. Et oui, parce que ces derniers ont constaté que leurs élèves, pourtant parmi les meilleurs d'Europe, ont de plus en plus de difficultés à lire des textes longs ou à écrire correctement en suédois. J'ai actuellement 55 étudiants en cours d'histoire, de littérature, et nombre d'entre eux disent qu'ils ont beaucoup de mal à assimiler des textes de cours, témoigné dans un journal un professeur. Mmh. Et Elisabeth Fritz, professeure associée des littératures anciennes à l'Université de Lund. C'est tragique, car ces étudiants devraient être très doués pour lire de longs livres. À l'Institut Karolinska à Solna, dans la banlieue de Stockholm, Elinor Kane, coordinatrice des cours en sciences fondamentales, observe le même phénomène. Nous avons changé un manuel pour le troisième semestre parce qu'il contient moins de textes. Nous revoyons un peu à la baisse nos ambitions en ce qui concerne la qualité du texte que les étudiants doivent lire. Il ne sert à rien de viser trop haut, car on perd alors les étudiants. En 2016, déjà, le gouvernement dirigé alors par les sociaux-démocrates avait rebaptisé les vacances d'automne « vacances de lecture
». D'accord.
Depuis la... Entre la fin octobre et début novembre, les bibliothèques municipales de tout le pays se mobilisent et organisent des activités. Le 10 décembre 2024, le ministre de l'Éducation a convoqué les représentants des universités, des organisations étudiantes et de l'Agence nationale de l'éducation pour discuter de cette crise de la lecture jusque-là observée dans le primaire et le secondaire et qui commence à affecter l'enseignement supérieur. Mmh. La situation est très grave en Suède, a-t-il constaté. Les statistiques publiées en décembre 2023 montrent qu'en 2022, un quart des jeunes de 15 ans ne possèdent pas les compétences de base de lecture et d'écriture. En 2000, ils n'étaient que 13%.
Ouais, ça monte.
Et alors, pour expliquer la tendance, plusieurs facteurs sont évoqués. Les écrans et le temps passé en ligne voilà, font figure d'ennemi public numéro un. Pour la première fois en septembre 2024, la Suède a publié des recommandations encourageant à restreindre le temps d'écran pour les moins de 18 ans. Mmh. Ah. L'école est également pointée du doigt. Les méthodes d'enseignement de la lecture d'abord qui peuvent varier d'un enseignement ou d'un établissement à l'autre. Le manque de moyens ensuite pour gérer les enfants d'un certain qui parlent notre langue à la maison, pour ceux issus de l'immigration.
D'accord.
Mise en cause, la digitalisation de l'enseignement.
La digitalisation,
oui, c'est-à-dire qu'avec les écrans d'ordinateur. Voilà. Le ministre des Écoles allait débourser 1,4 milliard de couronnes, 160 millions d'euros, entre 2024 et 2025 pour favoriser le retour des livres dans les écoles. En 2024, selon son ministère, les subventions ont permis de découvrir l'achat de 835 000 livres et manuels scolaires en maternelle et en primaire. Une grosse partie des fonds va être consacrée au financement des bibliothèques scolaires. Selon la Fondation, les enseignants, seulement 39% des élèves avaient accès à une bibliothèque dans leurs écoles en 2022. En novembre 2024, les députés ont adopté une loi qui impose à tout l'établissement, de la maternelle au lycée, privé comme public, de garantir l'accès à leurs élèves à une bibliothèque pourvue de personnel. Et pour orienter les enseignants, des listes de lecture incluant des romans, des recueils de poésie et de nouvelles adaptées à chaque niveau de scolarité vont être imposées. Et parmi les lectures, la lecture de L'étranger d'Albert Camus, ou d'En finir avec Eddie Bellegueule d'Edouard Louis, sont ainsi recommandées aux lycéens. Voilà. Et bon, là, on retourne à la lecture au papier, au livre.
Oui. Ah, c'est très rétro tout ça.
Bon. Très rétro, mais on s'aperçoit que.
Bon alors, Israël maintenant, où une enquête criminelle a été ouverte contre Sarah Netanyahou, l'épouse du Premier ministre. Dans une lettre envoyée le dimanche 2 février à une députée de l'opposition, le parquet israélien annonce qu'une enquête criminelle a été ouverte à l'encontre de Sarah Netanyahou. Elle est accusée de tentative de subordination de témoins dans le procès pour corruption de son époux. Une enquête criminelle donc a été ouverte à l'encontre de Sarah Netanyahou, épouse du Premier ministre israélien. Et ça dans une lettre envoyée le 2 février, une députée de l'opposition qui réclamait des poursuites. Le parquet ne précise pas la nature du dossier qui vise Sarah Netanyahou actuellement aux États-Unis. Mais cette députée travailliste, Naama Lazimi, l'accuse d'une tentative de subornation de témoins dans le procès pour corruption de son époux suite à une enquête journalistique diffusée en décembre par une télévision privée. Cette notification est importante pour le contrôle parlementaire, le système judiciaire et l'état de droit. C'est félicité de la députée Surix peu après. Je ne me tairai pas, je ne lâcherai pas et je ne permettrai pas que cette affaire soit enterrée. La justice sera faite, nous veillerons à ce que ce soit le cas. La parlementaire avait rendu public son courrier à la justice après une enquête de l'émission d'investigation OUFDA sur la chaîne 12 qui a affirmé que l'épouse de Benjamin Netanyahou avait notamment tenté d'intimider un témoin dans le procès de son mari. Dans cette émission, on entend des enregistrements présumés de Sarah Netanyahou demandant à l'assistante de son époux, décédé depuis, de harceler et de faire une campagne négative sur les réseaux sociaux contre des opposants à son mari, et notamment contre Hadass Klein, l'un des témoins clés du procès contre le Premier ministre israélien. En décembre, le chef du gouvernement avait été entendu pour la première fois lors de son procès pour corruption. Il avait qualifié de ridicule les accusations portées contre lui. Cette audience avait marqué la reprise du procès ouvert en mai 2020, mais interrompu par la guerre dans la bande de Gaza. Et on comprend pourquoi Netanyahou veut faire durer la guerre le plus longtemps possible.
Oui.
Alors Netanyahou a déposé plusieurs demandes de report en invoquant la guerre déclenchée dans la bande de Gaza par l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien. Il est quand même le premier chef de gouvernement israélien en exercice à être jugé au pénal. Il est poursuivi pour corruption, fraude et abus de confiance.
Bon, si ce n'est pas pour crime de guerre et contre l'humanité.
Non, non, mais en fait, c'est déjà pas mal. Hein.
Oui, c'est pas mal. C'est pas
et ça pourrait lui permettre de visiter les prisons israéliennes aussi.
Oui, oh, peut-être qu'il va trouver, peut-être être invité par Trump quelque part en Floride. Hein.
Oui, donc un exilé de luxe, oui.
Voilà. Alors, tu n'es pas aux États-Unis. Pour avoir un port d'armes, c'est plus difficile en France qu'aux États-Unis.
C'est plus difficile en France d'avoir un port d'armes qu'aux États-Unis. Oui. C'est pas l'inverse, non?
Aux États-Unis, c'est plus facile d'avoir un port
d'armes. Oui, ah ben oui, c'est ça, ouais, oui, d'accord. Oui.
Okay. Alors, Thierry Sutherland, c'est un citoyen d'Indianapolis, en Indiana. Et il a fait une démarche nécessaire pour obtenir son permis d'armes. Il l'a obtenu.
Oui, mais il a quand même une particularité.
Oui, c'est
je
ça.
Crois.
Thierry Sutherland est aveugle.
C'est, bon, c'est pas mal. Voilà.
Alors, bien sûr, hein, c'est volontaire sa démarche parce qu'il combat, il milite pour limiter l'accès aux armes. Hein, voilà, donc. Mm-hmm. Alors, il raconte son parcours. Voilà. Alors, dès son arrivée au bâtiment administratif du comté, il s'est présenté comme une personne malvoyante. Il utilisait même une canne blanche. Hein,
d'accord.
Et a parlé avec plusieurs personnes qu'il avait connaissance de sa cécité. Donc, voilà. Alors, tout s'est bien déroulé sans accroc et normalement, personne ne semblait d'y prêter attention, relate-t-il. C'était ahurissant, ça m'a choqué plus que je n'aurais cru. Jusqu'à la dernière seconde, je pensais que quelqu'un allait dire « attendez une minute » et que le permis ne serait pas approuvé. Ou que j'allais recevoir une lettre m'expliquant « écoutez, vous ne pouvez pas viser avec une arme ou mettre une balle à un bon endroit, donc nous n'allons pas vous donner ce permis ». Non, rien de tout cela n'est arrivé.
Ah ben ouais.
Voilà. Et alors, il faut savoir que Thierry Sutherland n'est pas aveugle de naissance. Hein, il a perdu la vue au cours de sa vie.
Oui, il a coupé, voilà. Pas l'inverse.
Donc, voilà.
Il n'est pas la vie au cours de sa vie.
Et avant, il tirait avec lui-même avec des armes à feu, alors qu'à l'époque où il voyait. Bon. Mais il s'est indigné de son propre cas. Il n'est pas pour autant un militant anti-port d'armes, il n'est même pas contre le deuxième amendement de la Constitution américaine qui garantit ce droit. Seulement, d'après lui, avant de livrer le port d'armes à une personne, s'assurer que ses compétences à une arme à feu et un minimum qu'on puisse faire. C'est un peu normal quand même.
Oui, bien sûr.
Voilà. Alors, bon, Guy Redford, un avocat défenseur du deuxième amendement, hein, s'inscrit en opposition avec la revendication de Thierry Sutherland. Il la trouve dangereuse, inappropriée. Il reproche à Thierry Sutherland d'avoir fait cette démarche.
Ah, méchant.
Cela ne veut pas dire que les gens ne devraient pas être formés à l'utilisation d'armes, mais la société fonctionne toujours mieux lorsque les gens exercent leurs responsabilités personnelles et comprennent qu'ils doivent être prudents et les responsables avec leurs armes, déclare-t-il. Selon moi, il s'agit d'un stratagème visant à établir un argument en faveur de la restriction des droits constitutionnels alors que le port d'armes constitutionnel existe depuis 2022, hein, l'Indiana. Bon. Enfin, Thierry Sutherland, lui, plaide pour que des lois de bon sens. Si je peux avoir une arme, pourquoi ne pourrais-je pas avoir un permis de conduire?
Oui, t'as qu'à faire, oui.
Qui est aveugle. Qui pourrait m'arriver de pire?
Oui, c'est sûr.
Vrai, il peut avoir une arme et...
Il n'est pas mis conduire.
Et même tirer en conduisant.
Et pourquoi pas, ouais.
Voilà, voilà. Donc, alors, l'homme a envoyé des lettres aux représentants à son État au Capitole dans l'espoir de pouvoir discuter de la réglementation. Pour l'instant, il n'a pas reçu aucune réponse. Alors, c'est vrai que...
Imagine,
bon,
ouais.
Les aveugles peuvent avoir des armes, voilà, donc... moi aussi, je vais prendre un AK-40, voilà... Et au bruit, je vais tirer, selon...
Bah oui, tu entends une voix que tu connais pas, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres le feu, voilà, normal.
Je vais quand même mettre mon appareil auditif avant, quand
même. Hein. Très bien. Bon, ben, je crois que c'est terminé pour ces informations hebdomadaires sur le 884 sur Radio Galère.
Bon, information dédiée à Issa Kone, qui nous a quittés malheureusement cette semaine. Voilà. Donc, un des anciens de la radio qui disparaît, après Théo, après Étienne, après Tard aussi, l'été dernier. Bon, c'est qui est un peu la série noire qui continue. Voilà, bon, ben, salut à toi Issa, salut à toi Étienne, salut à toi Théo, salut à toi Tahar. Et
puis salut à vous les auditeurs.
Salut aussi. À vous les auditeurs, et la semaine prochaine, si vous le voulez bien.
Salut à toi le Tunisien, salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit indien, salut à toi punk iranien, salut à toi rebelle afghan, salut à toi le dissident, salut à toi le chilien, salut à toi le petit malien, salut à toi le mohican, salut à toi peuple gitan, salut à toi l'éthiopien, salut à toi le tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi chaud allemand, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais, salut à toi le thaïlandais, salut à toi le laotien, salut à toi le coréen, salut à toi le polonais, salut à toi l'irlandais, salut à toi l'européen.